Bonjour tout le monde, bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent. Bienvenue à chacun, chacune. Ça fait plaisir de voir cette salle bien remplie. Et vous savez le thème d'aujourd'hui de l'atelier Une vie amoureuse qui l'honore. Et du coup, le privilège d'introduire nos deux orateurs, Johanna et David Sautel, qui ont rejoint l'IBG, l'aventure IBG l'année dernière. J'ai eu l'occasion de les rencontrer à ce moment-là. David est responsable des premières années. Et du coup, moi, j'étais dans la promo l'année dernière. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi Johanna, qui est là à l'écoute pour les étudiantes, qui est vraiment aussi avec Sandrine, là pour nous épauler aussi les étudiantes, répondre à nos questions. Et c'est une merveilleuse femme et vous aurez l'occasion de la découvrir à travers l'atelier et même, je pense, lors du congrès. Et je vous laisse vous présenter plus et nous parler de ce thème si important des relations amoureuses.
Merci Eva et merci à vous tous d'être là, c'est chouette, il y a des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps que je vois dans la salle. Comme Eva l'a dit, on habite même ici sur le campus de l'IBG. David, il travaille à l'IBG. On a 4 enfants. Moi, je m'occupe de ces 4 enfants. Ça prend pas mal de temps. Et avant d'être ici à l'IBG, on était dans le sud de la France. David, il était pasteur jeunesse au niveau de notre union d'église et pasteur d'église aussi. Et moi, j'étais prof d'anglais au collège. Je suis anglaise, si jamais vous entendez l'accent, c'est pour ça. On fait équipe avec David. Donc, on est mariés depuis 10 ans.
10 ans cette année.
Je pense, un truc comme ça.
Cette année.
Ah, c'est cette année, voilà, je le savais, ouais. Et merci. Et même après 10 ans de mariage, c'est vrai qu'on intervient régulièrement sur ce sujet, mais c'est pas pour autant qu'on se sent des pros du sujet, parce qu'on se rend compte, on progresse encore dans notre compréhension, on chemine avec les Écritures, et on tremble un petit peu aussi parce qu'on touche à quelque chose qu'on pense qui est vraiment un monument de Dieu.
Un monument de Dieu qui est tellement prestigieux, et on va en parler de cette manière-là, on veut vous donner une belle vision de ce monument de Dieu, et qui pourtant dans notre société ressemble plutôt parfois à, vous savez, ce genre de monument qu'on vient taguer, et vous passez devant de belles statues dans des villes, et c'est tagué, abîmé, il y a des sodas dessus, des détritus, et c'est parfois un peu plus l'image qu'on a de la vie amoureuse, et c'est peut-être votre cas, un peu dégoûté, parce que vous voyez quelque chose qui n'a rien de monumental ou d'extraordinaire en fait.
Alors voici une définition qu'on a trouvée, une définition non-croyante de l'amour. On l'a trouvée pertinente. L'amour est un fort sentiment d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose assez intense pour pousser ceux qui le ressentent à chercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour.
On vous laisse la digérer. Et notre approche, autant vous dire qu'elle sera... Voilà, dès le début, on veut être clair, notre approche sera l'approche de chrétiens qui sont engagés avec Jésus, l'approche de passionnés de la Bible, que nous croyons aux paroles de Dieu, qui fait autorité, y compris sur le sujet, et puis une approche pastorale, parce que c'est ce que le Seigneur nous a mis à cœur, de prendre soin des gens dans l'Église, et c'est un ministère que j'ai pleinement, que Johanna a dans son rôle d'accompagnatrice aussi de femmes et autres. Et donc c'est vraiment cette posture-là, et on est dans ce qu'on appelle le domaine de l'éthique chrétienne, ou la vie pratique chrétienne, sujet qui en fait est bien souvent dans l'Écriture, dans la Bible, le Nouveau Testament. Dès que tu vois « marcher, conduisez-vous », en fait c'est que tu es en train de parler d'un domaine qui s'appelle l'éthique, la façon de vivre. On croit et aussi on vit comme un croyant. Et c'est cette approche-là qu'on va prendre aujourd'hui. On aura 3 moments, un moment un petit peu plus exposé ensemble, et puis après on aura un moment libre de questions-réponses où, certainement pas qu'on pourra répondre aux questions de tous ceux qui sont dans la salle. Peut-être vous n'aurez pas de questions. Peut-être qu'il y aura une question, c'est toujours la première, la plus dure. Et on va essayer d'y répondre humblement avec la parole et de prendre le temps ensemble. Donc on va essayer vraiment de découper en 2 l'atelier et même en 3, puisque après Johanna, peut-être plus Johanna que moi, des fois je suis moins disponible pour Avomark, mais quand même, dès que j'ai le t-shirt vert, je rejoins Avomark. Et Johanna aussi est dispo pendant tout l'événement. Mes beaux-parents sont là pour garder nos 4 enfants. Priez pour eux.
Oui, ils ont besoin de vos prières. Il y a aussi d'autres personnes, d'autres couples qui sont disponibles à vos marques. Donc, si nous, on n'est pas disponibles, il y a aussi d'autres personnes qui pourront répondre à vos questions. Voilà. Et gardons la vue d'ensemble. Ce qui compte, ce qu'on s'est dit avec David, vraiment, c'est que nous soyons, que vous soyez des adorateurs du Dieu vivant. C'est un peu la priorité, que tu embrasses la foi chrétienne. Et ce qui, logiquement, aura un impact après sur ta manière de vivre. Du coup, chaque chose en son temps, avant de savoir ce que Dieu pense de la vie amoureuse, demande-toi où t'en es-toi dans ta relation amoureuse, j'ai envie de dire, avec lui.
Et comme dit, il y aura des temps de questions-réponses et on aimerait vraiment les vivre dans le respect et l'humilité. On ne connaît pas vos passés, on ne connaît pas vos historiques. Et on va essayer d'avoir l'approche la plus sensible pour heurter personne. Maintenant, se dire qu'on n'a pas, comme on l'a dit, la science infuse. On va revenir régulièrement à la parole, comme on l'a dit, qui fait autorité. Et le thème de l'atelier, donc, c'est une vie amoureuse qui honore Dieu. Et comme on va le faire au filtre de la Bible, premier moment d'interaction avec vous, pour vous entendre un peu. Quand vous pensez au thème de l'atelier, une vie amoureuse qui l'honore, et que vous pensez à la Bible, vous pensez à Cantique des Cantiques, au premier rang, je dirais pas qui. Ecclésiaste, ok. Proverbe, ok. 1 Corinthiens 13, oh magnifique. Genèse. Ruth, c'est ça que t'as dit ? Ruth. Proverbe 31. C'est le cahier des charges. C'est son cahier des charges. Ok, bah merci. En fait, c'est le constat qu'on en fait, c'est que du début de la Bible, et on commence par le début, à la fin, mais déjà dès le début, il est question d'amour, de relation. Dieu créa, Genèse 1, l'homme à son image, il le créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la.
Et à la fin de la Bible, encore un autre couple qu'on voit, Apocalypse 19, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur.
Vous voyez, du début à la fin, dans l'Écriture, il est question de couple. Alors d'une manière différente, avec les deux passages qu'on a cités là. Mais quand il est question de couple, quand il est question de relation, remarquez que c'est plutôt intense, hein, le programme. C'est plutôt costaud, c'est plutôt engagé. Il n'est pas question d'union à la légère, d'union libre, de pax, de couple libertin. C'est plutôt solennel.
Ok, David, on pourrait se dire, oui, c'est solennel, mais qu'est-ce qu'on en fait, du coup, dans l'Ancien Testament, quand on parle de viol, de non-consentement, d'inceste, de l'adultère? La Bible se contredit un petit peu, non? Et puis, il y a Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et puis, à un autre moment, il y a Paul qui dit aux Corinthiens, il est bon pour l'homme de ne pas prendre de femme.
Eh oui, si on s'arrêtait là, on se dirait, mais c'est ok, du début à la fin, mais c'est un peu confus. Ça se contredit pas mal. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Et la cause, elle est assez simple et elle nous a déjà été rappelée dans ce congrès. Genèse 3. Souvent, quand on nous dit avec Joana, mais ça se contredit la Bible, mais là, Dieu dit ça, et puis on a l'impression qu'il dit ça. Au milieu, il s'est passé un truc, le péché, la rupture, et ça a eu un impact tout de suite sur les relations. Relation d'altérité entre un homme et une femme, tout de suite il y a un impact, de la honte, une rupture avec Dieu et puis une rupture entre les individus, les relations amoureuses depuis sont brouillées, souillées, abîmées parfois, alors que Dieu avait tout mis en place pour un beau projet, un bon plan, pour une vie amoureuse qui l'honore. Et du coup on arrive à une première partie qu'on veut vivre ensemble et qu'on a intitulée Malgré tout, hein, tout ce qui se passe avec Genèse 3, on veut vous encourager au progrès, à ne pas se laisser accabler par ce monument qui est tagué ou tout un tas de choses qu'on fait ou qu'on dit sur la vie amoureuse dans notre société. Et on veut t'inviter au progrès Et rendez-vous, si tu as une Bible, sinon on va l'afficher, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Ouais, c'est ça. Et en fait, que vous mettiez un peu dans l'ambiance, on est à Thessalonique. On est good. On est à Thessalonique, une ville, et il y a des jeunes chrétiens dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans toute l'Asie mineure, d'ailleurs, la plupart des lettres que Paul écrit sont des églises d'Asie mineure qui baignaient dans tout un tas d'immoralités sexuelles. Imaginez des rues où il y a des tags qui représentent la partie génitale de Dionysos. Imaginez des cultes dédiés à ce qu'il y a en dessous de la ceinture de ce dieu-là. Des fois, on s'imagine la Bible, on dit « Oh, mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il y avait à l'époque. Paul, il ne peut pas comprendre notre société saturée de sexe, saturée de trucs bizarres, souillés. » C'était très obscur à l'époque déjà. Et Paul écrit à des frangins, des frangines, pour les encourager. Et les encourager dans ce monde rempli de ténèbres à tenir. Dans un monde qui, imaginez-le, hein, c'était en mode soirée étudiante XXL, orgie. C'était du n'importe quoi, du trash, mais il veut les encourager. Et le mot d'ordre de cette première partie, c'est le progrès. Alors, on commence la lecture au verset 1, et puis on continue. Maintenant donc, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire, vous rappelez l'éthique, et plaire à Dieu. De même, nous vous le demandons, et nous vous y encourageons dans le Seigneur Jésus, progressez. Vous savez, en effet, quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre
progression.
Ouais, c'est pas très réveillé tout ça. Le repas était tellement bon. Ce que Dieu veut, c'est votre
progression
dans la sainteté.
C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Sans se livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui connaissent pas Dieu. C'est que personne dans ce domaine ne fasse tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits parce que le Seigneur fait justice de tous ses actes comme nous l'avons déjà dit et attesté.
Verset 7, en effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la consécration. Celui donc qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme mais Dieu. Qui vous a aussi donné son Saint-Esprit.
L'appel de ce texte et de notre atelier, d'ailleurs, est clair, et c'est celui qu'on te lance ce week-end et maintenant, c'est de progresser dans la sainteté.
Pourquoi ? Parce que c'est ce que Dieu veut. Verset 3, c'est ce que Dieu veut, c'est sa volonté, que tu puisses progresser. Pas que tu puisses te rabaisser parce que tu te sens vraiment sale, parce que tu es vraiment mauvais, etc., parce que c'est sa volonté, il veut, il a le désir que tu progresses, qui que tu sois, qu'importe ton historique.
Et l'avertissement de ce texte est clair lui aussi. Regardez le verset 8. Ne rejette pas les instructions de Dieu, donc sa parole. Ça revient à rejeter Dieu lui-même.
Et en découle quatre applications déjà qu'on te laisse pour cette première partie. Cet appel au progrès, c'est vraiment ça, on veut t'encourager avec ça. Quatre applications qu'on tire du texte dans les versets. Vous avez bien vu, on les a numérotés. 1, 2, 3, 4 avec Johanna. Les versets 3 au cœur, hein, 3 à 6, pardon. Quatre mots-clés, quatre choses pour progresser. Premièrement, abstiens-toi. L'abstinence. Abstenez-vous d'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est tous les rapports sexuels illégitimes. Dans l'Écriture, il y a plusieurs listes d'immoralité sexuelle, mais en gros, on retient que c'est tout ce qui est en dehors du cadre que Dieu a prévu, et on va en parler de ce cadre. Consanguinité, sexualité avec des animaux, homosexualité et mariage mixte. Il faut savoir que pour les Hébreux, se marier avec quelqu'un qui n'est pas du peuple de Dieu, c'était de l'immoralité sexuelle. Abstiens-toi.
Deuxième application, garde-toi. Que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité. Verset 4. Donc, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. On est appelé à être consacré, qu'on soit mis à part, réservé pour lui. Et ça pose quelques questions déjà sur l'utilisation de nos corps. Qu'est-ce qu'on en fait à quoi nous les associons, comment on s'habille et en vue de quoi, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce que nous faisons de notre corps et à qui nous le confions, à qui ou avec qui nous le partageons.
Troisième application de ce texte, c'est le verset 5. Retiens-toi, sans livrer tout ça, ton corps, à la passion du désir, comme les membres des autres peuples, ceux qui ne sont pas du peuple de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Retiens-toi. Alors oui, l'attitude du chrétien, la démarche du chrétien face à la vie amoureuse et la sexualité, c'est une démarche, certes, à contre-courant de la société. La Bible ne nous le cache pas. Là où la société te dit « essaye, teste le matos et après tu t'engages », la Bible, c'est complètement l'inverse. C'est « engage-toi, vise l'engagement, vise quelque chose de fort, de puissant ». Et ensuite, il y aura tout le temps d'essayer, je parle de la sexualité, de ce domaine-là, vous comprenez. Là où la société te dit aussi « prends des robes, t'as des pulsions, assouvis-les, lâche-toi ». L'Écriture t'invite à savoir aussi te maîtriser et ne pas faire comme ce que la société, ce que la vision de la société te dit de faire. Et enfin, c'est lié à ce même domaine, protège-les. Touché par ce verset 6, que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. On est dans son contexte d'église, en lien avec le retiens-toi. Dans l'église, les croyants, peut-être, se faisaient du mal dans ces domaines-là. Peut-être que dans les groupes de jeunes de Thessalonique, il y avait des trucs qui se passaient qui n'étaient pas terribles au niveau de l'immoralité sexuelle, au niveau de la vie amoureuse, des coups bas peut-être. Protège-les. C'est ton objectif pour progresser, protéger l'autre. Pensez à l'autre dans le groupe de jeunes. Je ne parle pas de celui avec qui tu es en couple, je passe de celui qui est du sexe opposé. Soit celui qui va plutôt protéger que rabaisser ou polluer. Et ça en dit long aussi sur l'attitude que devrait avoir l'Église. Un endroit qui protège plutôt qu'un endroit qui abuse. Un endroit qui pointe vers la justice ou les autorités s'il y a des abus, plutôt que de faire justice à soi-même et de cacher les choses. Protège-les. C'est ça le progrès. Peut-être pas le progrès comme vous le dit la société, parce qu'on dit paradoxalement qu'on est dans une société progressiste, hein, en termes d'amour, voilà, toutes sortes d'amour aujourd'hui. Je m'en sors même plus, entre polyamour, truc, il y en a trop de déclinaisons. Le progrès, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ou au niveau de la sexualité aussi, tous les modèles de sexualité, LGBTQB, puis il y a trois petits points même maintenant. Ça, c'est une société progressiste, mais c'est pas le progrès tel que l'Évangile le produit et qu'on vient de vous exposer là avec ces belles valeurs qui sauront vivre les choses de manière eh bien protectrice et rassurante. Et puis, on te propose, du coup, on l'a un petit peu évoqué, mais c'est le deuxième point, de te parler du beau plan de Dieu, une vie amoureuse qui refuse les mensonges. Et on aimerait aussi t'exposer la belle vision de Dieu pour l'amour. Puisque on le croit, c'est plutôt clair dans l'Écriture. Et pourtant, nous les premiers, dans notre vie de célibataire et dans notre vie de couple, on a pu parfois croire des mensonges dans la vie amoureuse, ce qui touche à la vie amoureuse. On a pu parfois négocier avec la volonté de Dieu. Dieu a dit ça, mais si on va jusque-là, ça va. C'est pas dit dans la Bible. Ça va. Et puis on essaye de négocier avec le cadre de Dieu, on essaye de trafiquer un peu ce que Dieu a dit. Et quand je pense à ça, quand je pense à moi, à certaines époques où j'étais essayé de, par la vie amoureuse et autres, d'essayer de contourner, de passer de l'autre côté de ce que Dieu avait prévu, ça me fait penser à la situation de religieux qui était sur la terre en même temps que Jésus. C'est un texte auquel on revient souvent. Si tu nous as déjà entendu avec Johanna sur le sujet, tu auras probablement entendu et lu ce texte avec nous. Et on va le faire maintenant. Un autre texte clé, Matthieu 19, retiens ça. Chapitre 19 de l'Évangile selon Matthieu. Et on lit versets 3 à 8.
Les pharisiens l'abordèrent, donc Jésus, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme et qu'il a dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas.
Quelques remarques déjà sur ce texte. Si on regarde la situation, les pharisiens, les religieux, ils viennent en mode un peu piège avec Jésus. Oh, c'est clair, c'est même dit dès le début. Ils sont là pour lui tendre un piège. Et tu vois le verset 3, alors ça concerne le divorce, donc forcément ça touche au mariage, aux relations amoureuses. Mais vous avez vu la formule, hein ? Est-il permis ? Et puis ensuite, on le voit, mais oui, mais pourquoi Moïse a dit que ? C'est de te rappeler toutes ces fois où tu parles avec un leader jeunesse, peut-être ton pasteur, par rapport à l'amour, à la sexualité. Oui, mais tu vois, à l'époque, c'est une question de contexte, mais aujourd'hui, et puis dans cette église, ils ont dit que les pharisiens, ils sont dans cet état d'esprit un peu de piège, de négociation. En plus, ils essayent d'embrouiller Jésus parce que il y avait deux parties à l'époque. La question du divorce, c'était pas simple. À l'époque, il y avait des religieux juifs, ils pensaient que tu pouvais divorcer pour n'importe quelle raison. Ta femme, c'est pas faire le repassage, tu peux divorcer. Première raison, véridique. Deuxième partie religieux, là, ils étaient plus basés sur la loi de Moïse. C'était que en cas d'immoralité sexuelle, d'adultère par exemple, qu'on pouvait divorcer. Donc, ils essayent d'embrouiller Jésus avec ça. Et voyez comment s'y prend Jésus. La méthode Jésus. Est-ce qu'il rentre dans l'embrouille ? Attends, je vais te sortir les versets du truc, du machin. Attends, mais oui, il y a un commentaire que j'ai lu d'un... C'est quoi la méthode Jésus ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il commence par ? Continue ? N'avez-vous pas lu au commencement ? Ça, c'est la méthode Jésus. Pas d'embrouille, pas de recherche dans les textes de loi ou dans des trucs apocryphes ou que sais-je. Au commencement. Qu'est-ce qui était prévu avant ? Genèse 3. Quel était le beau plan de Dieu pour la vie amoureuse ? C'est toujours là qu'on est appelé à aller puiser, plutôt qu'aller essayer de chercher des chemins obscurs. Ça, c'est la méthode Jésus, de revenir au commencement, au beau plan de Dieu, là où tout était prévu pour une vie amoureuse qui l'honore. Et en fait, on a là, en Genèse 3, donc là, Jésus cite Genèse 3, on a là ce qu'on appelle la définition du mariage.
Genèse 2.
Genèse 2, pardon. La définition du mariage. Et c'est bien du mariage dont il est question, puisque Jésus le cite alors qu'il est en train de parler de divorce avec les pharisiens. Et c'est déjà là un argument pour certains qui diraient « Ouais, mais dans la Genèse, c'est pas clair. On a l'impression qu'on est marié quand on fait l'amour, quand on fait l'acte sexuel. Ça y est, ça nous marie. Pas besoin d'aller à la mairie. La mairie, c'est une conception moderne. C'est récent, c'est arrivé que tard et tout ça, donc on peut s'arranger. Nous, on a fait l'amour, c'est égal, on est marié. » Sauf que Jésus semble reconnaître les cadres sociaux de l'époque et les cadres d'alliance de l'époque qui étaient symbolisés par une cérémonie, un mariage juif.
Donc, qu'est-ce que c'est que ce mariage ? Et on vous en parle parce que c'est ce qu'on pense qu'il faut viser quand on veut vivre une vie amoureuse. Ce monument, il possède trois piliers forts que vous pouvez voir dans ce verset de Genèse 2. Et il y a un ordre à ces versets, à pas oublier. Donc, la première chose qui se passe dans un mariage, c'est la séparation du couple avec leurs familles respectives. Et la deuxième étape, c'est on crée une nouvelle entité sociale. Donc on n'est plus sous nos parents, leur juridiction entre guillemets, et maintenant on est une nouvelle entité, un nouveau foyer. Et remarquez que l'homme s'attache à une seule femme. Donc on parle bien d'une relation au commencement monogame et hétérosexuelle. Et dernière étape, c'est l'union de l'homme et la femme qui va s'exprimer dans quelque chose qui est indissoluble, quelque chose de très fort. Les deux ne font plus qu'un et ça s'exprime aussi par l'union sexuelle de l'homme et la femme. Et en plus, Jésus, il va rajouter que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quand on se marie, c'est Dieu qui nous unit. Et donc, c'est pour ça aussi que ce n'est pas dissoluble. Et voilà l'écrin que Dieu a prévu pour nous, un peu le cocon pour une vie amoureuse, en toute harmonie, en toute sécurité, en toute beauté. Et j'appelle ça un écrin parce que c'est comme ma boîte à bijoux que j'ai à la maison. J'ai utilisé cette image avant où je mets mes bijoux pour pas que mes enfants jouent avec ou les mangent. Et ça les protège, ma boîte à bijoux. Et c'est quelque part de sécure. Et c'est pareil pour le mariage, pour la vie amoureuse et la sexualité. Dieu, il a prévu ce cadre, cet écrin, comme ma boîte à bijoux, où on peut mettre et on peut vivre des choses en toute sécurité. Et c'est tellement rassurant, je peux vous le dire, de savoir que des choses intimes, je vais les vivre avec un seul homme, avec David. La sexualité n'est pas ce que les films nous vendent, malheureusement. C'est pas toujours évident. Et en fait, ce qui est trop beau, c'est qu'on a toute la vie pour s'exprimer, pour se connaître, aussi dans l'intimité sexuelle que l'intimité tout court. C'est quelque chose de rassurant, c'est une sécurité. C'est quelque chose qu'on partage seulement avec notre mari. Et c'est beau, c'est ce que Dieu a prévu au commencement pour nous.
Voilà, une première chose établie. Et juste pour finir sur Matthieu 19, moi, quand je lis ce texte, je suis toujours impressionné par la façon de faire de Jésus. Et si tu es quelqu'un qui est en responsabilité dans ton église, tu es responsable de groupe de jeunes ou tes parents, peut-être, il y a peut-être des parents dans la salle, prenez exemple. La méthode Jésus, c'est d'abord de la patience. Les pharisiens, ils arrivent pour tendre un piège, ils savent tout. Ils savent qu'ils viennent lui tendre un piège. Moi, je suis Jésus, je leur fais une clé de bras, quoi. Ils arrivent avec leur truc, leur machin. Patiemment, il continue. Et l'autorité aussi, qui dégage de la parole de Dieu. Parce qu'il ne fait pas juste parler du commencement, il cite une parole de Dieu qui fait autorité, parce qu'on parle de mandat créationnel, on parle de quelque chose qui vient de la création, avant le péché, c'est saint, c'est puissant. Patience, autorité, et puis bien sûr, le fait de revenir au commencement, avant le péché, parce que le péché nous donne des mauvaises lunettes, on n'arrive pas à y voir clair. Il faut essayer de revenir à avant. Le discernement, Jésus, il a compris que le débat, ce n'était pas tant les positions sur le divorce, etc. Verset 8, il va quand même leur faire une petite clé de bras spirituelle. C'est à cause de la dureté de vos cœurs. Ces fois où vous avez essayé de négocier avec les questions sur l'amour, la sexualité. Est-ce que c'était vraiment pour essayer de trouver la petite bête et contre-argumenter votre pasteur? Ou est-ce que, si on descend plus profond, c'est à cause de la dureté de vos cœurs? Parce que vous baignez peut-être dans l'un ou l'autre péché, et au lieu de vous dire « je m'abandonne à Christ », vous vous enfoncez encore plus dans la dureté. Et Jésus a bien compris avec qui il est en face de lui. Il a un bon discernement, et puis de la grâce. De la grâce. Le Christ, alors il y a le petit pic du verset 8 quand même. Et puis verset 9, il prend le temps de répondre à la question sur le divorce. Encore une fois, il savait qu'ils étaient là pour le piège, mais il leur en donne pour leur argent. Il va jusqu'au bout, il prend le temps de leur rappeler ce que dit l'écriture du divorce. C'est moins notre sujet le divorce, mais c'est juste pour vous donner cet exemple du Christ. Patience, autorité, la parole, commencement, discernement et grâce. C'est ce qu'on essaye de faire avec Johanna quand on approche ces thématiques, de faire la méthode de Jésus. Alors voilà, et comme on l'a écrit, cette partie est une partie où aussi on veut voir quelques mensonges sur la vie amoureuse qui circulent dans nos milieux, notamment dans nos milieux, dans nos églises, quelques mensonges qu'il pourrait y avoir sur la vie amoureuse. Premier mensonge, le célibat, ça craint.
Je ne sais pas si cette pensée est dans votre tête ou pas. Mais il y a un livre que quelqu'un a cité tout à l'heure, c'est le livre de Cantiques des Cantiques dans la Bible, et il y a un refrain qui revient tout le temps, vous le connaissez peut-être, il dit « N'éveillez pas, non ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». Et si vous êtes célibataire aujourd'hui, et par là on veut dire que vous n'êtes pas fiancé ni marié, aujourd'hui on aimerait vous encourager à entendre cet appel, à ne pas réveiller l'amour romantique dans votre vie avant l'heure, de profiter pleinement de ce temps de célibat. Et on veut vous encourager à voir ce temps comme un temps d'opportunité et un temps de préparation. Donc, premièrement, on ne peut pas dire que le célibat, ça craint, parce qu'on voit des exemples de personnes dans la Bible comme Paul, ou même Jésus, qui était célibataire. Et leurs exemples peuvent nous inspirer à savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est célibataire. On n'est là pas en train de dire « Oh, c'est nul que je suis célibataire ». Non. Jésus prenait le temps avec les gens, avec les hommes, les femmes aussi d'ailleurs, mais en toute sagesse. Donc parfois au bord du lac, parfois en rando, en marchant, autour d'un repas. Et puis il y avait d'autres temps pour évangéliser les foules. Son temps était consacré aux autres et à Dieu bien sûr. Et puis il y avait Paul, un autre exemple inspirant. Il voyageait, il implantait des églises, il bougeait tout le temps, il prenait des risques même. Paul, il a fini en prison. Et je ne sais pas s'il aurait pu se permettre le même style de vie s'il avait eu des enfants, s'il avait été marié. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il dit dans une de ses lettres à Corinthe, il dit « Je voudrais bien que chacun soit comme moi », c'est-à-dire célibataire. Donc, un encouragement à vraiment saisir ces opportunités dans cette saison de vie pour être attaché au Seigneur sans partage. C'est ce que Paul il dit dans sa lettre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des choses comme ça quand vous êtes mariés, mais Paul dira qu'on est comme tiraillés. Et c'est vrai, on a souvent moins de temps ou de liberté en termes de déplacement, surtout une fois qu'on a les enfants. Les choix sont plus difficiles à prendre parce qu'il faut prendre en compte d'autres personnes. Et avec David, on a pensé un peu à quelques trucs qu'on avait essayé de faire avant d'être mariés, quelques opportunités. Et on a listé. T'investir dans ton église à fond. Prendre le temps pour les gens. Investir dans les amitiés. Faire des camps. Partir en mission. D'ailleurs, David et moi, on a eu vraiment le privilège de pouvoir partir plusieurs fois en mission en Afrique, au Pérou, en Espagne et en France avant d'être mariés. Et ça a affermi notre vision de la mission avant de pouvoir le vivre en couple. Investir dans ta relation avec Dieu. Pourquoi pas se former théologiquement? Il paraît qu'il y a un super institut juste là-bas. Il y a parfois des familles qui disent que ah, si seulement j'avais fait l'IBG avant d'avoir des enfants, j'aurais eu un peu plus de temps pour étudier.
Et d'autres, avant d'être en couple, célibataire, peut-être ça m'aurait laissé plus de temps pour profiter de la communauté, de connaître les autres.
Et enfin, une autre, le célibat, c'est un temps pour se préparer. Se préparer pour quoi? Se préparer déjà pour des noces potentielles, pour l'amour de ta vie, si Dieu l'a prévu. Préparer ton cœur, prier pour ça, demander, est-ce que je suis le type de gars ou de fille qu'une autre chrétienne ou chrétien voudrait épouser? Ça peut être un temps de préparation aussi où tu questionnes les couples, tu les observes, sans les stalker non plus, mais observe les couples dans vos églises, peut-être méditer des textes sur le mariage, déjà lire un livre sur le sujet, surtout si vous êtes dans une amitié intentionnelle avec quelqu'un.
Des fois, je rencontre des célibataires qui ont lu plus de livres sur le mariage que moi, et je me dis, mais trop fort. Ça leur permet de se vivre ce temps de préparation de manière sérieuse et se préparer pour là où le futur, si Dieu l'a prévu. Ils ne le savent pas, mais qu'est-ce qui les empêche de déjà se préparer? Et des fois, on voit le truc à l'inverse. On se dit, mais pourquoi je suis célibataire? Mais peut-être c'est parce que Dieu veut profiter de ce temps-là pour que tu matures, parce que tu es peut-être un peu immature dans la foi. Peut-être que tu n'es pas encore celui ou celle qui est prête pour l'autre. Et puis un frangin de m'avoir dit quand j'étais célibataire, ah, t'as le désir de ton cœur, David, c'est d'avoir quelqu'un, mais est-ce que tu pries pour elle? Je dis oui, mais il n'y a personne, je prie pour qui? Prie pour elle, c'est le désir de ton cœur, remets-le à Dieu. Et ça m'avait fait tilt, et à partir de ce moment-là, bon, je ne dis pas que je l'ai fait tout le temps, sans arrêt, mais j'avais intégré ça dans mes réflexions de prière, de dire, en tout cas, là, le principe c'est de dire le désir de mon cœur à Dieu. Oser le faire, plutôt que de laisser macérer un truc comme ça à l'intérieur qui des fois tourne en rond et fait mal.
Donc un temps de préparation pour les noces potentielles, mais aussi pour les noces finales. La Bible, comme on a dit, finit avec un mariage, et c'est le mariage qu'on va tous avoir la joie de vivre un jour, si on est chrétien ou chrétienne, un mariage entre Jésus, l'époux, et l'Église, nous. Et en fait, quand on est chrétien, en tant qu'Église, on est appelé à se préparer pour ce jour-là. Tout cela étant dit, David, il a parlé peut-être du fait que tu n'es pas mature, mais peut-être tu es mature aussi, et que tu attends ce jour de mariage. Et en fait, ça peut aussi être une souffrance. Et tout ce qu'on a dit, ça n'enlève pas à la souffrance que provoque la solitude ou le stress de finir seul. Et quand on est chrétien, on doit se saisir de nos frères et sœurs de confiance avec qui on peut prier, partager nos souffrances et les partager avec Dieu aussi. Et soyons conscients aussi que c'est seulement dans l'éternité qu'on va vivre pleinement la guérison de nos cœurs et l'amour à l'état pur et parfait.
Et en tant que pasteur, je dois confesser que parfois dans l'église, on a été maladroit sur la façon de s'adresser aux célibataires ou d'être avec eux, de les voir comme des bons pions qui ont du temps libre pour regarder les enfants ou pour faire je ne sais quoi. On a besoin de re-enseigner sur le célibat, de refaire une belle place au célibat, de dire de quoi il s'agit, de citer ces passages de Paul et peut-être des fois de créer des temps de formation sur le célibat. On a conseillé un livre qui est à la librairie, « 7 mensonges sur le célibat » de Sam Alberi, qui est vraiment chouette, procurez-le-vous, peut-être démarrer une étude biblique au groupe de jeunes sur le sujet, un enseignement dans l'église qui peut être inspirant pour mieux saisir de quoi on parle et mieux accompagner ceux qui vivent un célibat depuis trop longtemps peut-être à leur goût, à leurs yeux, et qu'on évite aussi les boulettes et les façons tellement blessantes de parler à des célibataires qui le sont depuis longtemps. Deuxième mensonge.
Je le convertirai.
Dernièrement, j'entendais le témoignage de quelqu'un sur sa vie amoureuse, une jeune femme qui me racontait que, en fait, dans le groupe de jeunes, elle a vu petit à petit des gens du groupe de jeunes se mettre avec quelqu'un ou quelqu'une qui n'était pas croyant. Tout le monde faisait ça petit à petit, comme des dominos s'est tombé. Et puis, elle s'est dit, moi aussi, c'est OK. Elle s'est mise avec un gars qui n'avait pas la foi chrétienne, il avait même une autre foi. Et elle s'en est mordu les doigts bien des années après. Et elle confessait que ça avait été un si grand détour, qu'il avait éloigné de Dieu, qu'il avait aussi brassé dans ses sentiments, etc. Tant de détours. Et parfois, on se dit, mais je la convertirai. Et on en oublie que le seul, et j'ai dit tout à l'heure en plénière, le seul dont le prénom signifie Dieu sauve, c'est Jésus. Pour qui tu te prends de penser que tu pourrais sauver l'autre? Ou de faire ce pari fou de dire « c'est bon, je vais le convertir ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te prends pour Dieu, en fait. Et c'est une phrase qu'il nous faut revoir et remettre ça à Dieu. Et aussi se demander qu'est-ce que dit la parole de ça. Je vous ai parlé du peuple d'Israël tout à l'heure, qui considérait comme immoralité sexuelle le fait de se mettre avec un non-croyant. Mais on voit d'autres passages dans l'Écriture et on va les faire apparaître. Hop. J'aimerais... Est-ce qu'on voit celui-là? Alors, on va le lire.
2 Corinthiens 6. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant?
C'est un peu fort, et on est conscient que peut-être dans la salle, il y a même des couples où l'un est croyant et l'autre ne l'est pas. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour vous, en espérant que si tu ne crois pas en Jésus, tu puisses y croire. Parce que, comme on vous l'a dit ce matin, votre avenir en dépend, l'éternité en dépend. Alors on continue de prier, et loin de nous d'accabler les couples où il y a un chrétien et un non-chrétien, de dire « Ah, on va t'enfoncer encore plus !» Non, on est là pour prêcher l'Évangile, pour combattre pour l'Évangile, pas contre les gens. Mais on doit quand même être là aussi, pour, comme l'a fait Jésus avec autorité, rappeler l'Écriture, rappeler le plan de Dieu qui est qu'un croyant se marie avec un croyant. Et on pourrait vous citer encore un passage, Corinthiens 7, toujours 39.
Oui, une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut, à condition que ce soit dans le Seigneur.
Dans le Seigneur. Et c'est dans un contexte où Paul parle à des veuves, donc, qui sont de remariage, mais elles se retrouvent au même niveau que certains qui sont célibataires. Et se rajoutent à ça tous les passages où il est question, comme Éphésiens 5 ou Matthieu 19, où il est question du couple et du cadre de Dieu. Et je pense à Éphésiens 5, on aura l'occasion d'en reparler, mais où il est attendu que l'homme aime la femme comme Christ a aimé l'Église, d'un amour inconditionnel, on en reparlera. Mais si tu attends qu'un homme t'aime comme ça, comme Christ, comment il pourra le faire s'il ne connaît pas Christ? si sa vie n'a pas été transformée par Christ? Comment aimera-t-il comme Christ? Il pourra t'aimer, mais comme Christ, dans le Seigneur, dit Paul. Troisième mensonge.
Je sais fixer les limites. Donc, quand on est célibataire, on commence à sortir avec quelqu'un, la question se pose souvent chez les jeunes chrétiens, quelle limite dans l'amitié, déjà, garçon-fille, et quelle limite dans l'engagement? Est-ce que je dois officialiser notre relation? On va s'appeler comment? Copain-copine?
Fréquentation.
Fréquentation, ouais. Et j'officialise auprès de qui? Ma famille, juste, ou carrément sur les réseaux, ou juste les amis?
Puis bien sûr, la question des limites dans l'intimité. Est-ce qu'on se prend la main ou non quand on se fréquente? Je dis avec l'accent parce qu'on vient du Sud. Les limites dans l'intimité, est-ce qu'on se prend la main ou non? Est-ce qu'on se fait un kiss, un French kiss? Est-ce qu'on se caresse ou non? Est-ce qu'on se retrouve seul ou non dans la même pièce, dans la même voiture? Est-ce que quand on est ensemble, on garde la porte ouverte ou fermée? Est-ce qu'on dort dans un même appartement? Est-ce qu'on dort dans le même lit? Est-ce qu'on dort habillé ou non? Je m'arrête.
Ouais.
Mais vous voyez ce genre de limite où quand on se fréquente, qu'on n'est pas marié, on pense qu'on gère, on fait des listes même de ce qu'on fera ou fera pas, ce qu'on touchera ou touchera pas.
J'ai bien aimé tout à l'heure Derek, il a cité le verset « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Et parfois on pense qu'on sait nous-mêmes fixer les limites et on se met dans le rouge. Il faut reconnaître que ce n'est pas évident de fixer ses limites dans cette société dans laquelle nous vivons, qui nous propose tellement de cadres différents, de statuts différents. Et c'est des statuts qui n'existaient pas au temps de la Bible. Le statut petit copain, petite copine, par exemple, ou même fréquentation. Non, j'arrive pas à le faire.
Ça, c'est quand elle essaye de faire l'accent ouais. Du Sud.
Avec mon accent anglais, ça ne marche pas.
Quand moi, j'essaie de faire l'accent anglais, c'est pire. Donc.
Mais tous ces statuts, ça apparaît qu'au XXe siècle, par exemple.
Ouais, et se pose la question alors de quel statut pour aujourd'hui, les jeunes chrétiens, quel est le statut valable? Alors, quand on regarde les données bibliques, on se rend compte qu'il n'y a pas 36 000 statuts. Il y a le statut frère et sœur dans la foi, c'est la famille de Dieu. Et là, pour ce type de relation, le cadre, c'est tous les uns les autres, tu sais, porter les fardeaux les uns les autres, confesser vos péchés les uns les autres, tu vois tout ça? Ça, c'est tout le cadre, tout ce que tu peux vivre dans cette relation frère et sœur dans la foi. Et il y a de la place pour plein de choses. Ensuite, dans la Bible, on voit un autre statut qui est un peu plus loin, on le pense, que juste frère et sœur dans la foi, c'est l'amitié. C'est d'ailleurs sous-coté souvent dans nos églises, hein, le thème de l'amitié. On nous invite plus à parler des relations hommes-femmes dans les groupes de jeunes et tout que parler de l'amitié. Mais l'amitié, c'est tellement puissant. Lis le livre des Proverbes, il y a des choses tellement fortes sur la véritable amitié. On doit redorer le blason de l'amitié. Il y a de belles choses qui peuvent se passer, de confiance dans la souffrance, de partage de choses très profondes. Il y a des exemples, on voit David et Jonathan dans l'Ancien Testament qui ont une relation de frangins qui sont vraiment des amis forts. On a dans le livre des Actes, où on a Paul avec des frères qui deviennent des amis, des compagnons de route, qui cheminent, qui servent ensemble. Et puis, on pourrait parler d'un autre statut, si on va un peu plus loin. Il n'y a pas le statut fréquentation, désolé, ou boyfriend, ou crush, ou il n'y a pas ça. Mais il y a un statut, on pourrait l'appeler le statut se courtiser, se faire la cour. C'est à l'ancienne, hein. Ce mot il vient du Moyen-Âge et compagnie. Mais si tu regardes l'Ancien Testament, tu vois des situations où des hommes et des femmes commencent à se rapprocher un peu plus, mais ça se faisait dans un cadre plutôt familial, ou plutôt voilà, par le biais des parents, ou par le biais de rencontres entre les familles, etc. C'était... un petit peu ce statut-là, comme ça, où on allait un petit peu plus loin, c'était un peu plus intentionnel. Et bien sûr, dans l'Écriture, il y a le statut des fiançailles, la promise, celle qui m'est promise. Et là, le Cantique des Cantiques, c'est une ode aux fiançailles, la description. Et puis l'autre cadre, c'est le mariage. Et là, on l'a défini tout à l'heure avec Genèse 2. Et ouais, on a fait ce petit tableau... qui vaut ce qui vaut, mais vraiment qui vaut ce qui vaut, prenez pas ça pour parole d'évangile. Mais voilà, on se disait, tiens, comment vous aider? Des fois, vous dites, mais quelles sont les limites? Comment, à quoi ça correspond? Vous voyez rien, c'est ça? Ouais, on est d'accord. Donc, vous retrouvez le côté frère et sœur dans la foi. Le degré d'engagement, c'est, on est disciple. L'intimité, il n'y en a pas à cet endroit-là, au niveau tactile et autres. Après, on a mis le statut d'ami, le statut d'ami plus... il y a une intentionnalité, une exclusivité grandissante. L'intimité, elle se joue plus dans le côté communication que dans le côté tactile. le statut fiancé qu'on voit dans l'écriture en vue de se marier, mais pouvant être rompu aussi, puisqu'on on va un peu plus loin, on apprend à se connaître, et on connaît les idées de l'autre de plus en plus, on se pose des bonnes questions. Le statut de marié qui se vit dans l'altérité et dans le respect l'un de l'autre.
Et si je peux juste dire par rapport à notre expérience, en fait, souvent, on saute une étape. On saute de ami ou même frère et sœur à direct ami plus, ou même on se comporte comme des fiancés ou même parfois on se comporte comme des mariés en termes de notre intimité. Et ce qu'on aimerait vous encourager, et c'est de se dire, en fait, quand on est ami ou même ami plus, là, on parle d'amitié intentionnelle, c'est-à-dire que t'es ami avec quelqu'un, mais tu fais pas ça avec tout le monde. Par exemple, avec David, on a commencé à un moment donné à se parler toutes les semaines, pendant une heure, plus de temps. Et David, il faisait ça que avec moi. C'est une amitié exclusive, intentionnelle. Il me l'a dit. Un jour, il m'a dit, je fais pas ça avec toutes les autres filles. Et j'étais là, oh, trop bien. Et, et parce que aujourd'hui, des fois, on voit des hommes ou des femmes qui ont des amitiés, mais on ne sait pas est-ce qu'ils font ça avec tout le monde, et ils vont très loin dans l'intimité. Je parle plutôt des paroles, des sujets, ou le temps qu'on passe, et on ne sait pas du coup est-ce que c'est ce qu'ils sont ensemble ou pas. Et donc on vous encourage vraiment à être clair, et c'est pour ça qu'on a fait un peu ce tableau, se dire que, ouais, une fois qu'on est fiancé, on vise le mariage, mais même là, on essaie de réserver l'intimité physique pour... une fois quand on sera marié.
Ouais, et il y a un tableau qui nous a inspiré pour celui-ci, c'est celui de Jean-Sébastien Morin dans un livre qui s'appelle Une fille, un gars, un dieu. C'est le seul par un auteur francophone qui parle de la période avant les fiançailles, un peu fréquentation, amitié, un peu plus, etc. Très intéressant. Et certains vous me direz, mais David, entre les lignes 3 et 4, tu vois, ami plus, fiancé. Est-ce qu'il manque pas une ligne? Alors peut-être, justement, certains vous diraient c'est la ligne fréquentation. Mais il y a des fois, même si longtemps, ça a été notre schéma de pensée, il y a des fois on se dit, mais qu'est-ce qui distingue ça d'une autre case? Quand tu dis c'est mon copain, ma copine, c'est en vue de quoi? C'est pourquoi? Quelle est la motivation? Ça va où? C'est ça qu'il faut se demander. On va pas te dire si c'est bien ou c'est pas bien de s'appeler petit copain, petite copine, on veut pas jouer sur les mots. Mais où tu vas et où est la notion d'engagement? Et certains diront, mais du coup, dans cette période-là, et allez, disons qu'il y a la case fréquentation, au niveau tactile, on a le droit à quoi? Se donne la main ou pas, etc. Il y en a, et on trouve ça intéressant, il y a des auteurs qui disent, bah, en fait, dans cette période-là, même si tu officialises le côté couple, mais que tu n'es pas encore fiancé, etc., continuer à avoir une relation comme tu aurais, par exemple, avec ta sœur. Et du coup, au niveau physique, tactile, bah, le filtre, c'est qu'est-ce que tu ferais avec ta sœur ou pas? Peut-être qu'avec ta sœur, de ta famille je parle, hein, peut-être qu'avec ta sœur vous tenez la main, vous prenez dans les bras, etc. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses que vous ne faites pas, qu'un frère ne fait pas avec sa sœur. Donc là, ça emmène tout un tas de réflexions. Loin de nous, l'idée de vous faire une liste et de dire ce que vous avez le droit ou pas le droit, ou, etc. Ça ne va pas très loin, mais c'est juste vous inviter à la sagesse. Et vous inviter à vous demander qui vous êtes devant Dieu. Un couple qui va vers un engagement ou un couple qui juste... profite de l'autre comme ça, en se disant, bah après, au suivant, next. Et si c'est le cas, ça serait vous conformer au monde actuel. Ça, c'est le fait pour le crush. Qui est encore une autre ligne qu'on a enlevée, mais qui peut être très dangereuse. Parce que ça se passe juste là, c'est des projections qu'on a sur quelqu'un ou une personnalité célébrité. Et tout ça pour dire que... Romains 12, pardon. Ne vous conformez pas, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Mais essayez de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. On peut faire une pause peut-être maintenant. On a deux autres mensonges et après ça va vers la fin. Et peut-être qu'on peut garder ça pour la fin et faire déjà là une petite pause de questions-réponses. Allez, on conclut avec vous.
Juste pour les autres questions, on va... être à vos marques à des moments donnés. Il y a d'autres couples à vos marques. Donc, restez pas seuls avec vos questions. Posez-les à quelqu'un, surtout.
Ouais. On en a déjà parlé, donc on va le passer. On avait mis ça. Le sexe, c'est le ciment. Parce que comme on l'a remarqué, on a trop souvent omnibulé par la question et on en fait une finalité. Et c'est un risque, y compris dans le couple. Puisque oui, la sexualité est faite pour montrer, hein, une seule chair pour montrer le mariage, ce qu'on est en train de faire. Oui, la sexualité est prévue pour co-créer, hein, la reproduction, c'est aussi pour ça la sexualité. La sexualité, on le croit, est aussi voulue par Dieu pour la sensualité, le romantisme, pas juste pour faire des enfants. Hein, on voit ça dans plein d'endroits dans l'écriture, notamment en Cantique des Cantiques. Donc il y a de la place pour du romantisme, il y a de la place pour des moments intimes, mais toujours, toujours, et ça il faut le dire, vous les lirez à la maison, mais Hébreux 13, 4, sans que le lieu conjugal pour les couples mariés soit un endroit où il y a des souillures, des choses qui sont de l'ordre de l'immoralité, parce qu'on peut vivre l'immoralité sexuelle même dans un couple marié, par certaines pratiques. La Bible nous invite à vivre le sexe aussi dans le romantisme. C'est pas juste l'acte. Tu lis le Cantique des Cantiques, il n'y a pas juste l'acte ou la pénétration. Il y a du temps. Il y a de la communication, il y a des paroles, il y a des poèmes. Il y a du temps pour tout ça. C'est pas juste, comme on voit dans les films ou autres, quelque chose qui va très vite et qui est toujours un truc consommé. Et puis l'altérité. 1 Corinthiens 7, 3. Mon corps m'appartient pas, il est à Johanna. Le sien ne lui appartient pas, il est à moi. C'est ce que dit un Corinthien. Ça paraît choquant, mais en fait, quand on y pense, c'est tellement généreux. Ça vise l'altérité. Je ne vis pas pour moi, pour mes pulsions, pour qu'elle me fasse mon orgasme, mon plaisir, mon machin. Mais par contre, comment je peux la servir, lui faire du bien. Et du coup, écouter si elle ne va pas bien, si ce n'est pas bien, si, etc. On est au service de l'autre dans la sexualité, l'altérité. Et terminer avec un dernier mensonge qui est peut-être un peu tellement important à réfléchir. On l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais je suis trop sale. Parce que peut-être que depuis le début, peut-être qu'au bout de 5 minutes dans l'atelier de ce qu'on a dit, certains d'entre vous vous ont dit oh, « Moi, je suis tellement à côté, tellement sale, j'ai tellement brûlé d'étapes, je suis tellement souillé, j'ai tellement regardé de choses sur mon écran qui ont souillé mon corps et mes pensées. » J'ai eu tellement de partenaires sexuels, j'ai séduit tellement d'hommes, j'ai joué avec tellement de femmes sur différents tableaux, je suis souillé. Ou d'autres, malgré vous, vous avez été abîmé, abusé, violenté, alors que ça n'avait pas sa place. À vous tous, on veut vous lancer cet appel que non, tu n'es pas trop sale devant Dieu.
Ouais, parce que Dieu, c'est celui qui les restaure. On était content de la prédication de Derek ce matin qui nous en a bien parlé du fait qu'il faut courir vers Dieu. Pas se cacher de lui, pas se dire non, j'ai trop honte, mais en fait, courir vers notre Père qui peut rafraîchir notre vision de la vie amoureuse parce que lui, il a dépensé sans compter pour te restaurer. Et il est allé jusqu'à envoyer son fils unique pour nous donner tous une nouvelle chance et dans ce domaine aussi. Et le témoignage de David qu'on a lu ce matin et ce psaume, on vous encourage à relire ce psaume si c'est le cas pour vous aujourd'hui de se dire non, je suis sale, relisez ce psaume et humiliez-vous devant Dieu.
On n'a pas le temps de les évoquer là, on vous les a juste mis à titre d'exemple. Le premier, vous l'avez vu ce matin, mais deux exemples, un homme et une femme. Qui à nos yeux même, on se dirait, mais boah, c'est vraiment ce que David a fait, on l'a entendu ce matin, n'importe quoi ce gars. Et la Samaritaine, quand on y pense, qui a eu je sais pas combien de partenaires, etc., et celui avec qui elle est, c'est même pas son mari. Et à chaque fois, on voit que ce qui va les retirer, les restaurer, c'est la grâce de Dieu. Et leur capacité à eux, la Samaritaine et à David, d'être honnête, d'être vrai devant Dieu. Et c'est ce qu'on constate avec ces deux personnes-là. Et au niveau de ceux qui auraient vécu malgré eux des abus et autres, on tient à vous dire de ne pas rester seul. Peut-être que c'est ce week-end où pour la première fois vous pourrez en parler dans un cadre confidentiel, dans un cadre sécurisé, une femme avec une femme, un homme avec un homme, à l'espace Avomarque ou avec un couple si vous préférez. Peut-être c'est la première fois que vous oserez en parler. Osez dire, sans parler des détails ou quoi que ce soit, mais que vous avez vécu quelque chose que vous ne devriez pas vivre. Il n'y a aucune raison pour laquelle on devrait, sans consentement, prendre la sexualité de quelqu'un. Ce n'est pas juste. C'est abîmer la création de Dieu. C'est en profiter d'une manière indécente. Et pour l'instant, pour certains, vous avez peut-être vécu des injustices à ce niveau-là. On vous invite aussi à vous rapprocher de structures légales. En France, par exemple, c'est très bien fait. On peut dénoncer un abus et autres. Il y a un site évangélique qui s'appelle Stop Abus, qui renvoie vers les autorités civiles. en Suisse, avec le réseau évangélique suisse. Vous allez voir sur leur site internet, il y a aussi le même genre de plateforme. Avec l'Église, des fois, on essaye d'être les juges et les gendarmes, etc. On peut accompagner pastoralement les gens qui ont vécu des abus, mais on a le devoir de citoyen de les renvoyer vers des professionnels qui géreront ça de la bonne manière et qui feront justice. Et si justice n'est pas faite, parce que des fois ça arrive, et c'est peut-être ton cas, parce que ça a été couvé dans l'Église, caché, parce que ça touchait à des responsables ou quoi, le Seigneur le sait. Et un jour, la justice sera faite. C'est lui qui s'en occupera d'ici là. Trouve quelqu'un pour en parler. Essaye de suivre un chemin de restauration par sa grâce, renouvelé par son Saint-Esprit. On a vu des hommes et des femmes, des hommes et des femmes, même si les stats sont clairs dans les églises évangéliques, c'est beaucoup plus les femmes qui ont vécu des abus. Mais on a aussi vu des hommes et on a vu des chemins de grâce où les gens sont restaurés. Ils ont su être accompagnés et avoir une vision restaurée de la sexualité et de l'amour. Alors non, tu n'es pas trop sale. C'est peut-être un mensonge qu'on te fait croire ou que le diable essaie de te faire croire. Mais entoure-toi de la grâce de Dieu et de personnes sensibles dans ton église pour avancer. Et pour terminer, quelqu'un a évoqué 1 Corinthiens 13. On voulait aussi évoquer Éphésiens 5, où c'est le même type d'amour. La conclusion de Paul, quand il parle du mariage, il dit que chacun d'entre vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amour et respect, c'est des mots-clés qu'on pourrait développer. Mais si on pense à 1 Corinthiens 13, c'est le même mot en grec, agapé. C'est l'amour inconditionnel. L'amour qui compte pas. L'amour généreux. L'amour qui est sacrificiel, qui transforme, qui porte l'autre, qui regarde l'intérêt de l'autre avant le sien. C'est cet amour-là, à une vie amoureuse de ce type qu'on t'invite. Si t'es pas prêt à ça, si t'es pas prêt à ça, te mets pas en couple. Si t'es trop sur ton bonheur, tes besoins, tes pulsions, c'est que tu n'es pas encore prêt à l'amour, tel qu'il est défini dans Éphésiens 5 ou 1 Corinthiens 13. Des textes à méditer qui parlent du véritable amour. Tu veux vivre une vie amoureuse qui l'honore, médite ce qu'est l'amour agapé. Je dis agapé parce que dans la Bible, on retrouve l'amour aussi charnel, l'amour amitié, etc. Amour et respect, deux mots clés. Et ce verset d'envoi, afin d'être irréprochable et pur, des enfants de Dieu, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. Philippiens 2, qui allait bien avec le thème de notre congrès. Faites la différence. Franchement, c'est dur. Ne vous dites pas que c'est juste votre société, parce qu'on l'a vu depuis la nuit des temps, depuis Genèse 3. Le diable et ses sbires prennent un malin plaisir à déstabiliser les relations d'amour entre l'homme et la femme. Normal ? C'est ce qui, en fin de compte, est une illustration de l'Évangile. Le beau plan de Dieu pour son peuple, de le racheter, d'en faire l'Église, l'épouse qu'il attend pour le mariage final. Que le Seigneur vous protège, vous bénisse. Et puis, aussi, vous avez reçu dans vos packs, en fait, ta jeunesse nous a demandé de synthétiser un atelier qu'on avait fait il y a plusieurs années. Et ils vous l'ont mis dans vos sacs, on a vu ça. Et donc, vous voyez pourquoi Dieu se mêlerait-il de ma vie sexuelle ? C'est aussi le nom d'un ouvrage de Sam Alberi qu'on a beaucoup aimé. On explique dedans qu'on a repris son titre. Mais voilà, c'est un petit article qui résume aussi des principes qu'on avait déjà évoqués il y a 3 ans. On a fait une formule différente cette année. Mais voilà, un petit kit de survie pour vous rappeler les bases un peu sur la vie amoureuse et là plus particulièrement la vie sexuelle.